Carnet de région.
Gare.
Aude.
Lozère.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Carnet de région, magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Cette semaine, on commence par faire le tour des coiffeurs montpelliérains qui réagissent au projet de loi Macron 2, projet qui prévoit de supprimer l'obligation d'être titulaire d'un diplôme pour exercer leur profession. La semaine dernière, la nouvelle présidente de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, Carole Delga, était en visite dans le département de l'Aude, l'occasion pour elle de dessiner les contours d'un vaste plan d'investissement. Radio Escapade nous emmène à Mandagou, dans le Gard. La municipalité de Mandagou a récemment dû remettre en location un logement qu'elle destinait à une famille de réfugiés. Radio Aviva nous invite cette semaine à une exposition sur les formes de résistance par les arts et la littérature pendant la Seconde Guerre mondiale. Exposition visible jusqu'à juin à Castelnau-le-Lez. Enfin, on se muscle les mollets avec Radio 16 qui prépare vaillamment la 46e édition de cette course mythique, l'Étoile de Bessèges. C'est parti pour ce numéro de Carnet de région. Supprimer le diplôme pour exercer la profession de coiffeur. Une des mesures inscrites dans la loi Macron 2, le texte initial sera décliné en amendements rajoutés à d'autres projets portés par d'autres ministres. François Hollande a repris cette idée dans son plan pour l'emploi. L'objectif, faciliter l'accès à certaines professions, un projet qui divise parmi les professionnels de la coiffure. À Montpellier, chaque artisan a son point de vue sur la question. Reportage de Thomas Loret de RCF Maglone Hérault.
Sèche-cheveux à la main, Yves Galindeau termine la coupe de Jacqueline. Pour ce titulaire du brevet professionnel, le métier de coiffeur ne doit pas être ouvert à tous.
Pas sans formation, parce que ce serait une porte ouverte à tout et ce serait catastrophique. Quoi. Ça s'apprend, c'est des produits.
Catherine Baudouin, elle, est plus partagée. Plus que les diplômes, ce qui compte, c'est l'expérience.
Il y a des gens qui n'ont pas les examens et qui sont fortement qualifiés, et d'autres qui ont les examens et qui ne sont pas qualifiés. Il faudra que ce soit fait intelligemment, il faudra prouver qu'il y ait des années d'expérience et non pas se lancer comme ça au hasard.
César, coiffeur diplômé, encourage ceux qui ont fait leur preuve à se lancer, diplôme ou pas.
Le diplôme ne fait pas le coiffeur. Qu'on laisse les gens au moins s'installer au bout de 5 ans, 5-6 ans de métier à ce moment-là. S'il n'y a pas de diplôme, ça serait une très bonne chose.
Des points de vue mitigés côté professionnel, mais aussi côté client. Jacqueline l'affirme, elle n'ira jamais dans le salon d'un coiffeur non diplômé.
Alors pas du tout, parce que les coiffeurs manipulent des liquides qui sont nocifs et tout, et ça s'apprend.
Cindy, elle, est moins catégorique. Cette blonde d'une vingtaine d'années ne vérifie pas les diplômes quand elle va chez son coiffeur.
Non, ce qui est important, c'est le feeling qu'il peut avoir avec le coiffeur. Et quand on va une fois et qu'on est satisfait de ce qu'on nous fait, voilà, ça fidélise le client.
Actuellement, pour ouvrir un salon de coiffure, la loi exige l'obtention d'un brevet professionnel après 4 ans de formation.
C'était un reportage à Montpellier de Thomas Loret de RCF Maguelone Hérault.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Relancer l'emploi en France et en région, enjeu d'importance qui passe sans doute par la commande publique et par de grands projets d'investissement régionaux dignes d'un effort d'après-guerre.
Le plan Marshall, c'est bien sûr de la commande publique, ce sont des sommes, ce sont également des modalités de commande publique. C'est qu'à travers les marchés publics avec des petits lots, nous puissions permettre à des entreprises de petite taille, ce qu'on appelle les TPE-PME, de pouvoir candidater à la commande publique. C'est également des dispositifs d'avance, de trésorerie, sans garantie financière, qui permet de répondre à la conjoncture économique qui est difficile de nos entreprises. Et puis la commande publique, c'est pour bien sûr soutenir l'emploi de nos entreprises, pour permettre à toutes les entreprises d'y accéder, mais c'est pour permettre aussi à tous nos demandeurs d'emploi d'accéder aussi au travail. Et dans cette commande publique, nous aurons vraiment un volet insertion par le dispositif de cette commande publique qui sera très fort, parce que nous souhaitons mettre des clauses, bien sûr environnementales, dans nos marchés, mais également des clauses sociales. Et c'est vrai que là, avec le département, nous avons un partenariat à nouer et nous avons convenu que nous signerions une convention pour que nous soyons très bien coordonnés, surtout le dispositif d'insertion par l'emploi à travers la commande publique, puisque là, nous pourrons être vraiment de façon efficace, complémentaire, et nous permettrons vraiment à chaque personne de pouvoir bénéficier de dispositifs d'intégration par des petites entreprises, mais aussi par de plus grandes qui ont une responsabilité sociétale. Alors quand je pense à des grandes entreprises, je pense par exemple au doublement de la 61 entre Toulouse et Narbonne, ou par exemple la société concessionnaire Vinci, nous allons les rencontrer et pour leur faire part de notre volonté, un, que ces trois travaux soient engagés dès l'année 2016. Donc là aussi, c'est des doublements qui sont dès l'année 2016 au niveau de l'usine Corbière. Et après, un peu plus entre Castelnaudary et Toulouse, hein, ça sont les premiers tronçons qui vont pouvoir être réalisés très rapidement. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de ces investissements, nous souhaitons que les entreprises autoroutières donnent un signal favorable en ayant des clauses sociales et environnementales d'intégration qui soient fortes.
C'est donc un plan ambitieux d'investissement régional que lance la présidente en ce début de mandat. Reste à savoir si l'on parlera un jour de plan Delga. Un sujet de Jérôme Bozon pour RCF Pays d'Aude.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Comme une vingtaine d'autres communes du Gard recensées par le coordinateur départemental pour l'accueil des réfugiés Xavier Ancard, la municipalité de Mandagou, village de 400 habitants à côté du Vigan, s'est positionnée pour l'accueil de réfugiés dès la fin de l'été. En l'absence de réponse claire de la préfecture pour l'installation d'une famille dans un appartement propriété de la commune, le conseil municipal a pris la décision à contre-cœur de remettre le logement en location. Emmanuel Grieux, adjoint au maire de Mandagou.
La commune de Mandagou avait décidé d'immobiliser donc un appartement, un logement communal qui était vacant justement à cette époque-là. On avait décidé donc de l'immobiliser et pour le laisser à destination des réfugiés, puisqu'il y a eu un appel aussi par la suite de l'État français pour accueillir un maximum de réfugiés. On a commencé à essayer de prendre des contacts aux services de l'État, à la préfecture, avec des coordinateurs de la préfecture, sans réponse ni perspective. On a eu un semblant de perspective en décembre en nous disant « ça y est, c'est pour maintenant, vous allez les avoir ». En attendant, des bonnes volontés se sont mobilisées sur Mandagou, demander qu'est-ce qui se passe. On a se mettait à disposition des objets, des affaires, des effets.
Quels ont été vos rapports avec la préfecture alors même que vous annonciez vouloir répondre à ce plan pour accueillir des réfugiés sur votre commune ?
Eh bien, le désarmement total, c'est-à-dire que chaque fois qu'on appelait la préfecture, c'était « ah, on ne sait pas, oui, on va vous prévenir ». Alors, ils essayaient de gagner du temps par des phrases et des roulés-boulés. Le coordinateur du Gard se disait jamais au courant. Il avait même dit qu'on serait au courant plutôt par le coordinateur national que par lui. Les services de préfecture nous renvoyaient la balle, ou alors, quand on avait appelé, nous envoyaient le directeur de cabinet du sous-préfet du Vigan, qui est venu avec la gendarmerie pour regarder une énième fois l'appartement, puisque on a eu des demandes à remplir de feuilles, trois fois la même feuille pour décrire l'appartement, au cas où ça ne conviendrait pas. Finalement, donc, ils sont venus avec les services pour nous faire gagner un peu de temps, pour regarder un peu l'appartement s'il était joli. Heureusement, on a quelqu'un de compétent en coordination nationale des réfugiés, M. Brault, qui est préfet national en charge de ce dossier, qui lui me tient informé de certaines situations au niveau national et international à celui-là, mais qui n'a pas compétence sur le territoire départemental du Gard. À un moment donné, on sait qu'il y a des besoins en termes de logement. En plus, cet appartement communal, pour une petite commune comme la nôtre, 400 habitants, ça représente quelque chose. Et on sait qu'il y a des avis aussi partagés sur les décisions comme celle-là. Et d'autant plus que cet appartement communal fait partie aussi d'une certaine politique d'encouragement de l'école. C'est-à-dire qu'on fait une priorité sur les familles, justement, pour faire bénéficier des effectifs de l'école. Donc, c'est tout un ensemble qui fait qu'on ne peut pas tenir indéfiniment, et surtout sans perspective, en fait, l'immobilisation d'un tel bien sur la commune.
De remettre cet appartement sur le marché locatif, est-ce que ça veut dire que vous renoncez à l'accueil de réfugiés sur la commune de Mandagou ?
Alors non, on ne renonce pas du tout. Simplement, on associe nos impératifs avec la réalité. Donc malheureusement, on a pris une décision là. Bon, on a un conseil municipal vendredi. Donc on va en discuter justement de la suite à donner, sachant que la mairie n'est toujours pas contre le fait d'accueillir des réfugiés. D'ailleurs, on s'est mis en relation, quelques-uns d'entre nous au sein du conseil municipal, s'est mis en relation avec certains particuliers qui sont sensibilisés, qui s'étaient déjà sensibilisés dès le début, et qui sont venus nous voir, et on s'est mis en relation avec eux pour créer un collectif. Alors ce sera un collectif de particuliers, évidemment, qui sera motivé sur Mandagou pour prolonger l'élan. Et évidemment, la mairie appuiera ce collectif d'une manière ou d'une autre. Je sais que l'élan continuera dans le pays villanais, autour, à Mandagou. Je sais qu'on nous écoute et j'espère que d'ici là, les services de l'État essaieront, parce que je sais qu'il y a un nouveau préfet qui a été nommé, le temps de s'installer, j'espère qu'il sera attentif à notre requête et nous donnera ne serait-ce qu'une perspective, ça serait encourageant.
C'était un entretien envoyé par Pierre Isnard-Dupuis de Radio Escapade. Le 27 janvier a été décrétée journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. La France a retenu cette date du 27 janvier, anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, pour cette journée de mémoire. Une journée qui a pour but, d'après le ministère de l'Éducation nationale, de faire prendre conscience que le mal absolu existe et que le relativisme n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Il s'agit aussi de montrer que l'horreur s'inscrit dans une histoire qu'il convient d'approcher avec méthode, sans dérive ni erreur. C'est ce que s'emploie à faire le Centre Régional d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Castelnau-le-Lez. En ce moment, c'est avec une exposition consacrée à la résistance par les arts et la littérature que ce centre assure ce devoir. Des caricatures, des livres, des papillons qui servaient à la guerre psychologique sont exposés en ce moment. Laurent Sastre, responsable de cette exposition, nous en dit plus au micro de Grégory et lui.
Je trouvais ça assez intéressant de présenter alors non seulement les livres des éditions de Minuit, mais aussi la revue du Monde Libre qui a été parachutée par surtout les Anglais, les Britanniques, grâce à la RAF, donc la Royal Air Force. On a aussi des chansons de la BBC qui sont projetées. On a agrandi la majorité, la totalité même, sur le panneau qui est derrière nous. On a aussi des papillons qui ont été parachutés au-dessus de la France dans le cadre de cette guerre psychologique que se livrent évidemment les Alliés et les nazis à cette époque. Alors peut-être les éditions de Minuit, c'est donc une édition, une maison d'édition clandestine qui a été créée en 1942. Et dans cette maison d'édition clandestine, le premier ouvrage qui a été publié est Le silence de la mer, que pas mal de gens ont lu. Ce silence dans la mer, en effet, a été tiré, je crois, autour de 500 exemplaires, donc les tirages sont en général très faibles, peut-être même 300, puisqu'en effet, la pénurie de papier, et puis que ce soit rigoureusement interdit par les autorités à la fois allemandes, mais aussi les autorités de Vichy, de publier des livres sans passer évidemment par ces autorités, on pouvait en effet avoir pour conséquence non seulement l'arrestation, mais aussi la déportation de ceux qui participaient à ce type d'action résistante.
L'exposition regroupe des livres de Louis Aragon ou Elsa Triolet parus aux éditions de Minuit, mais aussi des textes de chansons et des caricatures qui soulignent l'usage de la dérision et de l'humour par les Français et les alliés anglo-saxons pour combattre la propagande des forces d'occupation et du régime de Vichy. Résister par les arts et la littérature de 1940 à 1945, c'est à voir au Centre Régional de la Résistance et de la Déportation à Castelnau-le-Lez jusqu'à juin prochain. C'était un sujet de Radio Aviva.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
On termine ce carnet de région par un peu de sport. L'étoile de Bessèges est née en 1971. Du 3 au 7 février prochain, cette course cycliste prendra d'assaut le bitume gardois pour la 46e fois. Radio 16 est allé à la rencontre du fondateur historique de cette course, Roland Fangil. Entretien.
Roland Fangil, bonjour. Vous êtes le créateur de l'étoile de Bessèges en 1971, président de l'Union cycliste bességeoise et commissaire de course. On va parler de la 46e édition de l'Étoile de Bessèges du 3 au 7 février, une course en 5 étapes.
La première année, en 1971, il y avait une seule journée de course qui s'appelait non pas l'Étoile de Bessèges, puisqu'il n'y avait pas d'étoile, c'était le Grand Prix de Bessèges, une journée, voilà. La deuxième année, ça a été pareil, il n'y a eu qu'une journée aussi, puis après on a commencé un peu à progresser. La troisième année, ça a été 3 étapes. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où on a trouvé notre stabilité, celle de dire, bon ben voilà, maintenant c'est clair, ça dure 5 jours et ça fait partie des courses à étapes.
Cette année, c'est un départ donc le 3 février de Bellegarde.
Oui, la chance veut que depuis maintenant 4-5 ans, on a un partenariat avec le département du Gard et surtout avec les communes du département, ce qui nous permet de faire les 5 journées de course uniquement dans le Gard. Et puis bon, l'autre avantage aussi, c'est que c'est une manifestation qui arrive à plaire. Et c'est pour ça que les étapes que l'on va présenter en 2016 seront pratiquement identiques à celles de l'an dernier, puisque tout a été reconduit à part quelques petites modifications.
On va donc commencer avec le mercredi 2 février.
Première étape, le Grand Prix de la Terre d'Argent, c'est-à-dire l'intercommunalité, qui partira de Bellegarde à Beaucaire. Donc, sur un parcours exactement le même que l'an dernier, puisque là, on n'a aucune modification d'itinéraire, et on arrivera sur le quai de la Paix à Beaucaire, après un départ dans la commune de Bellegarde. 156 km, puisque les étapes sont toutes axées sur un kilométrage à peu près identique. Mais la deuxième étape, qui sera une collaboration entre la ville de Nîmes et la communauté de communes de Cèze-Cévennes, puisqu'on partira de Nîmes pour arriver dans une commune de la communauté, c'est-à-dire à Méjean-le-Clap, après 153 km. Et on va dire qu'on partira de Nîmes sur le boulevard Jean Jaurès, que l'on prendra directement par le camp des Garrigues pour arriver à Uzès. Et à partir du passage aux Fumades, on rentrera sur le territoire de Cèze-Cévennes pour faire un circuit qui nous mènera par Saint-Victor, Saint-Denis, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Barjac pour arriver à Méjean. La troisième étape, eh bien, alors, ce sera le 5 février. Et là, c'est le traditionnel Grand Prix de Bessèges. Il faudra Bessèges, un départ sur la place de la mairie, oui. Et arriver sur l'avenue Peyric. Donc 152 km, c'est traditionnel. On a un circuit qui fait trois fois le Trélis, les Brousses, le Saint-Bresse, la côte du Châtaignier. Voilà, c'est, on va dire, c'est un peu l'étape de montagne qui se déroule durant la semaine. Et puis après, un circuit de 7 km à faire trois fois pour le final à Bessèges. Ce sera le samedi 6 février, donc le Grand Prix de Lodin-Lardoise. Alors là, c'est une petite innovation. On partira pas de Lardoise, mais de Tavel, pour arriver dans le mur de Lodin, comme on a fait l'année passée, avec 5 tours de circuit par le mur de Lodin. Et puis on arrive au dimanche, et bien le dimanche est le 7 février, c'est le Grand Prix de la ville d'Alès, et c'est le contre-la-montre individuel qui part du centre-ville, de la place du Cratère, pour arriver à la cime de l'Ermitage, contre-la-montre individuel de 12 km, depuis quelques années, révèle le vainqueur final de la semaine, puisque le contre-la-montre est particulier, et l'ascension dans la montée de l'Ermitage est tout à fait originale aussi.
Quelles sont les équipes cette année?
Alors, on aura toujours l'équipe Lotto-Soudal, qui est une équipe belge, avec en numéro 1 Tony Galopin, qui est le meilleur Français actuellement sur le Tour de France, qui a fait second l'an dernier. On a la Française des Jeux, qui a envoyé une belle équipe, bien sûr, avec Thibaut Pinot, avec Démare Arnaud et puis Arthur Vichot. AG2R, la mondiale, avec Latour Pierre et Dupont-Hubert. En même temps, on va dire, on peut citer Jean-Christophe Perrault. On a l'équipe IAM, alors l'ancienne équipe de Sylvain Chavanel. C'est une équipe suisse, c'est la première fois que l'équipe suisse sera chez nous, à IAM, avec Jérôme Coppel, la nouvelle équipe qui remplace Europcar Direct Energy, avec Thomas Vauclair et Sylvain Chavanel. Une équipe espagnole, Caja Rural, l'équipe française Cofidis Solution Crédit, avec Rosato et Sénéchal. Fortuneo Vital Concept avec Jonathan Hiver, qui a été vainqueur aussi sur l'étoile, Pierre Fedrigo. On a l'équipe Delco Marseille Provence KTM, c'est l'équipe la plus qui est à côté, puisqu'elle sort de Marseille. Hein. C'était l'ancienne équipe du VC La Pomme. On a Roubaix Lille Métropole, équipe française. Alors là, on a quelques équipes belges avec Top Sport Vlaanderen Baloise. Wanty Group Goubert qui est belge aussi. On a l'équipe française Aubert 93, une équipe suisse Roth, l'équipe Wallonie-Bruxelles, l'Armée de Terre qui est une équipe française qui s'est mise dans le peloton professionnel depuis l'an passé, avec bien sûr un régional Thomas Rostolan, l'équipe irlandaise Anpost, Veranda Classic et Veranda Willems. Voilà, au total 19 équipes au départ.
Et bien sûr, il y a toujours le concours de belote.
Oui, là aussi, ça fait quelque chose qui fonctionne bien, puisque ça fait quelques années qu'à la brasserie Didier Racing, on se retrouve le lundi, parce que comme on va organiser, nous, le Grand Prix de la Marseillaise le samedi et le dimanche qui nous précèdent, le lundi, c'est un peu un jour de repos avant d'attaquer le mardi. C'est une soirée qui est très sympathique, puisqu'on se retrouve à partir de 17h. C'est quand même un concours où tout le monde a la chance de pouvoir peut-être pas jouer avec, mais au moins contre Poulidor, contre Dan Guillaume, contre Luc Leblanc et tous les anciens professionnels qui sont là et qui composent la course de cette 46e édition.
Roland Fangile, organisateur de l'Étoile de Bessèges, était au micro de Nadège pour Radio 16. C'est la fin de ce numéro du carnet de région. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toutes les radios qui y ont participé. À la semaine prochaine pour un nouveau carnet de région.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.